The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book.
Vous écoutez Bouquet Chousse, le podcast de la bonne littérature, et je suis Tara Lennart. Poétesse, Laura Vasquez signe un premier roman hybride et incantatoire où la poésie vient compléter l'écriture romanesque. Sous la plume de l'autrice, qui utilise souvent comme révélateur psychologique de ses personnages, la poésie vient dessiner les contours d'un univers unique. Les mots et les sonorités se répandent, se déclinent, s'associent pour former une langue qui se lit autant qu'elle s'écoute. La Semaine perpétuelle, publiée aux éditions du Sous-sol, est un livre sur une famille, sur un mouvement, celui de Salim, sa sœur Sarah, son père, sa mère disparue, sa grand-mère mourante, son ami Jonathan. Et puis sur Internet, les réseaux, les flux et reflux et questions, les spirales de détails qui forment notre quotidien et risquent de nous avaler. Tout de suite, nous allons parler d'écriture avec Laura Vasquez. Bonjour Laura, pour commencer ce podcast, comment es-tu venue à l'écriture en général, en fait, quelle que soit sa forme ?
Salut, alors comment je suis venue à l'écriture ? Très petite, j'écrivais des prières, j'inventais des prières et c'était pour que la mort s'éloigne. C'était une manière de protéger ma grand-mère, dont j'étais très proche, et qui était âgée, comme toute grand-mère. Donc, je savais qu'elle allait mourir un jour, avant moi. Et je voulais faire quelque chose. Alors, j'écrivais des prières, et j'en écrivais très souvent. Donc, ça, c'était mes premiers textes, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Ensuite, j'ai écrit des chiffres. J'écrivais beaucoup de chiffres. En fait, j'aimais bien écrire, quoi.
Et quand tu dis écrire des chiffres, c'était juste comme on écrit des mots à la suite. Toi, tu écrivais des successions de chiffres ?
Ouais, j'écrivais 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, 8 plus 8 égale 16. Je continuais comme ça sur des pages et des pages et des pages et des pages. Et ça faisait beaucoup d'écriture, ça faisait beaucoup de textes comme ça sous mes yeux et de manière très simple et très systématique. Donc, j'avais un grand plaisir à voir défiler ça. J'ai aucune capacité spéciale en mathématiques. Hein. Je suis pas d'ailleurs pas très, très forte pour ça, même si je trouve que c'est très, très beau et très intéressant, mais je n'y accède pas. Par contre, c'était un moment pour moi d'écriture, ces trucs de chiffres. Donc il y avait les prières et ensuite il y a eu ça et ensuite des petites histoires et ensuite des petits poèmes et voilà, bon, ça a continué.
Oui, ça a été vraiment petit à petit de progression en progression.
C'était plutôt des sortes de phases, mais c'était pas petit à petit, hein. C'était assez complet, c'était assez prenant, complètement prenant dès le départ avec un risque de mort, de vie ou de mort, avec un truc très, très important. Dès les tout premiers textes, j'étais vraiment très petite, je savais à peine écrire, donc je ne saurais pas dire quel âge j'avais, mais c'était assez tôt.
Et quand tu es passée justement vers la phase poème, qui est restée quand même chez toi, puisque tu es publiée en poésie, primée en poésie, tu as vraiment quelqu'un d'active, voire une activiste un peu de la poésie avec les différents recueils que tu as pu publier, revues, créer, etc. Qu'est-ce qui t'a fait rester un peu dans cette phase, puisque tu parlais de phase tout à l'heure, ou qui t'a parlé dans l'écriture poétique ?
Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça s'est fait directement comme ça, avec mais pour moi le roman aussi c'est de la poésie, mais c'est une autre forme de poésie. Mais dans la poésie, alors celle qu'on reconnaît directement en vers, peut-être quelque chose d'un peu plus espacé, ce qui est très fort pour moi, c'est une sensation directe, comme un déplacement, comme quelque chose d'un peu presque d'un peu tordu, d'un peu étrange, comme un grand risque comme ça qui apparaît. apparaît ou quelque chose qui se retourne. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, mais pas seulement dans l'écriture, ça me plaît énormément dans la lecture. Je ressens de la joie, de la jubilation quand je lis un texte de poésie, enfin un texte tout court, et que je trouve ça. Alors là, vraiment, je sens quelque chose de très très fort. Et c'est ce qui me plaît, mais peut-être que j'aurais pu le trouver ailleurs. J'aurais pu le trouver, je ne sais pas, dans la sculpture, dans le jardinage, dans la cuisine, la mécanique ou autre chose. Mais en fait, c'est venu par l'écriture et c'est resté comme ça. Mais je savais assez jeune, très tôt en fait, que j'allais vers ce sentiment-là que je ressentais très, très fort. Je ne savais pas que ce serait par l'écriture et ça s'est fait. Ça s'est fait par l'écriture. Mais vraiment, ça aurait pu être la maçonnerie.
Oui, tu prends un peu on peut dire un paradoxe avec maçonnerie poésie, mais cette recherche d'émotion et de qui est même pas forcément liée au beau ou de côté ciselé ou au beau en plus qui est une question très subjective. Qui est ce que tu ressens toi dans quelque chose de et ça s'avère que c'est le texte.
Oui, c'est ça et c'est un sentiment de quelque chose de juste. Un sentiment de justesse. Ah tiens, c'est ça, c'est juste. Mais c'est juste d'une manière que je ne connaissais pas et qu'à la fois je connaissais mais sans connaître. C'est quelque chose comme une vibration. Et je pense qu'on peut la trouver à peu près dans tout tant qu'on fait quelque chose du mieux qu'on peut avec une forme de sincérité, même quand c'est des mensonges. Hein, sincérité dans le mensonge aussi, c'est intéressant. Mais oui, cette sorte de vibration très forte et que tout le monde a, les animaux aussi.
Est-ce que pour toi, il y a une différence ? Tu disais que non, mais justement entre l'écriture d'un poème et le travail sur un roman, qui est donc ton premier roman en plus.
Oui. Oui, il y a une différence. Alors, les poèmes peuvent être très, très longs. Hein. Il y a des épopées poétiques qui sont extrêmement longues. Mais ce qui se passe dans le poème, c'est qu'il y a des changements de direction très rapides. Très rapides et sans nécessité d'explication. Comme des animaux, par exemple, un animal qui... Par exemple, certains animaux sont poursuivis par des prédateurs et on les voit courir par d'autres animaux prédateurs et on les voit courir une... court pas de manière linéaire, mais il court en zigzag, en faisant des bonds comme ça. Mmh. Et en fait, la poésie, c'est exactement ce mouvement-là, pour moi en tout cas. C'est ouais. Ce même mouvement. Et c'est ce qu'on retrouve dans les rêves. Dans les rêves, par exemple, on marche dans la rue, quelques secondes après, on est au milieu de la mer et on ne se pose pas de questions, on l'accepte tout à fait. Il y a ces bifurcations comme ça qui apparaissent. Et dans la poésie, c'est tout à fait possible d'avoir ces mouvements ultra rapides comme ça et immédiats, instantanés. Dans le roman, tel que je l'ai vécu pour écrire La Semaine Perpétuelle, mais peut-être que j'aurai d'autres expériences du roman plus tard, mm-hmm. mais dans le roman, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long, lent, endurant, et que les changements de direction, ils peuvent être très... Alors, il y a Patato qui crie, désolée, je veux participer absolument à cet entretien.
Oui, il y a des choses à dire apparemment sur l'écriture du roman.
Mais oui, elle m'a accompagnée tout le long, donc elle doit en savoir quelque chose. Voilà. Donc, je disais que ces ruptures, ces bifurcations très fortes dans le roman sont présentes aussi, mm-hmm. mais peut-être pas de manière aussi resserrée. Et j'ai la sensation, si on devait comparer ça à du sport, que la poésie, ce serait comme un sprint, comme des sprints, mm-hmm. plusieurs sprints comme ça, pas à la suite, mais avec des pauses, mais des sprints vraiment très vite, très fort. Et le roman, c'est plutôt un marathon, beaucoup d'endurance, beaucoup de miroirs, d'échos, de réponses, c'est-à-dire que ce qui se passe pour un personnage... page 310, bah peut-être que c'était déjà là, page 12, d'une certaine manière. Donc, il y a cette idée d'endurance et de fil, de ne pas perdre ce fil, ce long fil. Dans la poésie, on peut le laisser un moment, le fil y revenir, c'est tout à fait ouvert et en ce sens-là, plus libre. Mais ce n'est pas plus facile du tout, la poésie, ni le roman.
Ça reste voilà, avec leurs particularités, comme tu viens de l'expliquer, oui. Deux exercices très différents. Il y a de très bons sprinteurs, de très mauvais marathoniens et inversement.
Ouais, c'est ça. Alors oui, alors on doit travailler nos muscles parce que par exemple, pour faire du sprint, les gens qui sont bons ont les muscles courts. En général, physiologiquement, leurs muscles sont plus courts. Et les gens qui sont bons au marathon ont physiologiquement des muscles plus longs. Moi, j'avais des muscles courts, mais j'ai dû beaucoup m'entraîner pour avoir des muscles longs sans briser mes muscles courts. Ça a été très difficile au départ. Et je disais tout à l'heure que les deux sont très difficiles, la poésie comme le roman, mais en vérité, les deux sont hyper faciles. Mais c'est tellement facile que c'est difficile parce qu'on ne sait pas du tout faire des choses faciles et directes. On est tellement recouvert de tout qu'on ne peut pas. Donc, c'est tellement facile que les deux sont assez difficiles, mais faciles. Voilà. Mais c'est tout un paradoxe aujourd'hui.
Un petit peu ce que disait Kerouac, où il disait que, bon, je traduis un petit peu à l'arrache, qu'un jour, il trouvera les bons mots et ils seront simples.
C'est très vrai ce qu'il dit. Par exemple, je ne sais pas, là où il y a des arbres devant moi, mais par exemple, la phrase « un arbre pousse », c'est magnifique. Cette phrase « un arbre pousse », c'est magnifique. C'était magnifique il y a 3000 ans, c'est magnifique aujourd'hui, c'est magnifique en France, c'est magnifique au Japon. C'est magnifique, un arbre pousse. Et c'est très, très simple. Mais ce qui est difficile, c'est d'écrire un texte et un livre. Parce qu'une phrase, ça va. Un arbre pousse, c'est merveilleux. Un livre avec juste cette phrase, c'est formidable, mais en général, dans les livres, il faut mettre plusieurs phrases à la suite et là, ça se complique. Et
comment est-ce que cette idée, en fait, cette envie de roman est née chez toi? Comment est-ce que la semaine perpétuelle a vu le jour, ne serait-ce déjà qu'au niveau d'idées, puis quel a été un peu son processus? Comment est-ce que tu as réussi à mettre plusieurs phrases jolies les unes à la suite des autres?
Alors, j'ai surtout pas pensé à des phrases jolies, surtout pas, mais alors dans mes poèmes, de plus en plus des figures apparaissaient, donc des personnages, des voix souvent à la première personne et qui se racontaient, donc avec des lieux, avec des circonstances, parfois quelqu'un qui parlait de sa mère, parfois quelqu'un qui parlait de son passé, et ces voix étaient de plus en plus présentes, et j'ai eu envie de leur donner de la place. Et puis surtout, j'adore les romans, j'adore lire des histoires, j'adore qu'on me raconte des histoires. Je voulais écrire un roman depuis très très longtemps, mais j'avais la sensation qu'un roman, ça doit être malin, intelligent, et que l'écrivain, l'auteur, l'autrice doit tout connaître, tout contrôler et doit avoir un immense cerveau pour tout calculer. Donc, je suis partie de là et évidemment, j'ai souffert horriblement de cette idée affreuse. J'ai passé des mois en enfer, vraiment, et il a fallu passer par là pour me rendre compte que sans abandonner complètement, sans laisser le texte complètement, sans cette idée de renoncement, de départ, eh ben, j'allais rien pouvoir faire. Donc, j'ai eu cette phase avec ces croyances un peu bêtes, mais par lesquelles peut-être il fallait passer. Et jusqu'à ce que je me rende compte vraiment par la pratique et par la souffrance, à un moment donné, qu'il fallait absolument renoncer, absolument laisser, sinon ce n'était pas possible. Et c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, donc, des personnages sont apparus, des lieux, des figures, des situations, des paroles, des rythmes aussi dans la parole, dans la manière de dire les choses. Et après, pour ce livre, beaucoup, beaucoup de choses m'ont intéressé et m'ont nourri tout du long. Beaucoup de vidéos YouTube de jeunes garçons musulmans, des jeunes garçons musulmans qui expliquent la vie. Alors ça a été le premier moteur, quoi. Des jeunes gars dans leur chambre qui donnent des petits bouts de traduction du Coran et qui aussi expliquent la vie, expliquent comment faire pour des questions très pratiques, parce que on dit qu'il n'y a pas de tabou en islam. Donc, dans l'islam, par exemple, dans cette religion en particulier, eh bien, il est question de choses très, très pratiques et très concrètes de la vie. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'était dans une langue très spéciale, un français un peu spécial. Et donc, j'en ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour imaginer Salim, pour ressentir Salim, au début, c'est venu de là. Alors après, il est devenu complètement autre chose. Oui. Et, l'islam n'a pas de place spéciale dans ce livre, mais je me suis beaucoup nourrie de ça et de plein d'autres trucs. D'ailleurs, hein, je pourrais t'en faire une petite liste. Hein, y a plein d'autres choses, mais le point de départ, c'était cette langue de traduction directe du Coran par des jeunes garçons dans leur chambre qui faisaient des vidéos YouTube. Parfois, quand on lit un texte ou qu'on entend quelque chose, ça déclenche une écriture tout de suite. Oui. Ça arrive. On lit un truc très fort, ça déclenche une écriture. Et là, c'était cette voix, ces voix, ces manières de parler, ces manières d'expliquer le monde, de parler de la mort sans aucun tabou, de parler du corps, de parler même de choses dégoûtantes, mais sans aucun tabou et avec une langue assez belle et avec des bouts de Coran dans des traductions de textes très littéraires, très métaphoriques, très imagées au milieu de choses concrètes. Alors ça, c'était fascinant pour moi, c'était génial de tomber là-dessus et j'ai passé des mois à regarder ces vidéos.
Il y a une certaine, dans ce que tu décris, en tout cas, une certaine poésie dans le concept lui-même, ce qui n'est pas le but, hein, le premier, j'imagine, de ces jeunes garçons, mais le résultat.
Ah oui, c'est sûr, hein, c'est très très beau. C'est peut-être aussi un but, hein, que ce soit assez poétique, puisque quand il y a des discours comme ça sur un thème en rapport avec, qu'on va mettre en rapport avec un texte du Coran, eh bien il y a des coupures dans le discours et tout ce qui est extrait du Coran est chanté. D'accord. Donc c'est comme si je te parlais et là je vais te citer un texte, au lieu de te le citer, d'un coup je te le chante avec une voix, avec de l'autotune.
Ah, de l'autotune, quand même, c'est pas une voix plus...
Il y a toujours de l'autotune, enfin, ouais, il y a toujours de l'autotune ou un écho, tu sais, dans les voix de la prière, c'est très fragmenté, comme ça, assez codifié, et c'est très, très beau. Mais en fait, tu vois, quand le livre a commencé, une fois que ça a commencé, tout rentre.
Oui.
Donc, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai croisé, tout rentre, tout ce que j'ai lu. Donc, tout rentre et tout est complètement transformé et devient très, très lointain. Ce serait vraiment, je pense que ce serait un peu pénible de voir tout ce qui m'a servi, parce que vraiment, ça va d'une éponge Spontex à, je sais pas, à un parfum, à une couleur, à un mot d'une dame qui passe dans la rue. C'est trop.
Ouais, c'est plus un état d'esprit en fait et de perception de toi envers le monde que de construction intellectuelle en fait. J'ai l'impression ce que tu décris.
Oui, alors c'est pas vraiment moi. C'est pas vraiment moi en fait. C'est l'écriture.
Ouais.
C'est l'écriture qui prend tout. Elle prend tout. Et moi, des fois, tu vois, je suis en train d'écrire et je me rappelle pas de trucs que j'ai entendus ou que j'ai vus ou dont j'ai rêvé. Mais mon écriture s'en rappelle. Et après, quand je relis, je me rends compte, ah oui, c'est vrai que ça, je l'avais vu il y a très longtemps, ou quand j'étais petite, tiens, cet endroit, je le connaissais. Mais moi, je n'ai pas trop servi. C'est mon écriture qui s'en est souvenue, tu vois.
Oui.
Tout passe par elle.
C'est une fréquence, en fait, presque.
Bah oui, hein, tu sais, il y a ce truc, le poète est une radio de Spicer.
Oui.
C'est vrai.
Donc, au niveau de tes sources d'inspiration, du coup, est-ce que tu arrives à distinguer un petit peu, dire « bon, ben voilà, j'ai des sources d'inspiration un peu panthéon personnel, etc. » ou est-ce que c'est tellement poreux que c'est un petit peu plus compliqué que « j'aime machin qui m'inspire » ou est-ce qu'il y a une complémentarité entre les deux états un peu?
Alors, comme je te disais, une fois que le livre est commencé, tout rentre. Mais bien sûr, j'ai des sources d'admiration et j'ai des sources d'accompagnement. Tu vois, je sens qu'il y a des auteurs qui m'accompagnent quand j'écris, qui m'accompagnent beaucoup. Par exemple, tu vois, cette idée d'un livre dans lequel tout va rentrer, tu lis Rabelais, tout rentre, tout est mélangé, et ça prend et ça fonctionne très, très bien. Donc, il y a plein d'auteurs comme ça qui m'accompagnent et c'est très, très varié. J'aime bien certains poètes asiatiques. Bah, j'en cite un dans le livre, Ishikawa Takuboku, qui était un poète japonais. Je vais le dire plus lentement, Ishikawa Takuboku, qui était un poète japonais. C'est marrant de le dire vite, Ishikawa Takuboku, c'est trop marrant.
C'était très pro, je trouve.
Ouais. C'est comme Marie-Josée Pérec, la sprinteuse.
Oui, oui.
Son nom va vite, Marie-Josée Pérec.
Oui,
Ishikawa Takuboku. Ça ressemble un peu, alors qu'il n'y a pas trop de rapport.
A priori, sait-on jamais.
Oui, peut-être. Donc, c'était un poète japonais du 19e siècle, on l'appelait le Rimbaud japonais. Et lui aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui m'accompagnait pendant l'écriture de ce livre. Et j'ai plusieurs auteurs m'ont beaucoup accompagnée. Et vraiment, j'ai des sentiments de reconnaissance. Quand je pense à l'existence de certains textes, je me sens très reconnaissante que ces textes existent, que tout ça soit là, que tout ça soit fait déjà. Je sens une reconnaissance, je pourrais même pas l'exprimer, mais dans l'écriture c'est très fort, c'est très très fort. Je sens tout le monde en fait derrière, je sens tout le monde quand j'écris, je sens toutes ces lectures et tous ces gens là et c'est merveilleux parce que moi j'existe pas, tu vois, la petite personne avec ses problèmes, avec sa vie, avec son quotidien, avec ses nullités, des fois ses super faiblesses et tout, bah, tout ça hop, pendant ces moments c'est plus là. Donc ça, c'est extraordinaire comme expérience.
Oui, ça doit être assez fou. En plus, c'est quasi mystique, en fait. Un peu d'invoquer toutes ces énergies, toutes ces écritures, ces voix, et qui sont à tes côtés, tu changes un peu de dimension.
Bah, en fait, c'est vrai que des fois, il y a un sentiment de miracle. Hein. Il se passe un truc incroyable, miraculeux, enfin... qui dépasse la personne, qui dépasse la petite personne quotidienne. C'est vraiment ce que je cherche, hein. C'est tout ce que je cherche. Quelque chose qui dépasse la petite personne, les petits avis, les goûts, les répulsions, l'histoire personnelle, quelque chose de beaucoup plus vaste et qui est cette espèce de dépassement, de miracle tout à coup qui arrive. Alors ça, quand ça arrive, merci quoi. Merci, enfin, je sens vraiment le mot merci. Des fois, je dis merci. Des fois, j'écris. Ben, c'est rare, hein. Je ne suis pas non plus en train de dire merci tout le temps. Mais des fois, il se passe un truc et je sens qu'il s'est passé un truc. Et des fois, je prononce comme ça, merci. Parce que vraiment, il s'est passé un truc.
Oui, tu l'as senti et le résultat te...
Bon, alors le résultat, c'est une autre histoire.
Ouais.
la relecture, c'est une autre période, beaucoup moins miraculeuse. Et il se passe quelque chose de sans doute plus mesuré, plus technique, plus dur aussi dans le dédoublement. Mais et oui, ce sont des étapes très importantes. Mais effectivement, si tu vois, si je me laissais aller dans cette sensation de possibilité, de miracle, de grandeur constamment, je pense que ça donnerait des textes qui ressembleraient à du vomi. Donc évidemment, je travaille énormément. Je travaille vraiment beaucoup, beaucoup les textes parce que sinon, ça marche pas. Ou peut-être pour des gens géniaux. Mais par exemple, Pierre Guyotat, pour lui, apparemment, ça se passait comme ça. Il ne se relisait pas. Ça venait comme ça de manière extraordinaire. Il était même en érection quand il écrivait ses textes. C'était un sentiment total de quelque chose de fou, de miraculeux qui l'a conduit même jusqu'au don absolu, jusqu'au coma, presque à la mort. Et voilà, ça lui venait comme ça... C'est extraordinaire de lire cette expérience dans ces entretiens. J'aime beaucoup ces entretiens. En tout cas, de mon côté, je travaille beaucoup. Je m'identifie un petit peu plus à des auteurs peut-être qui travaillent beaucoup. Oui. Mais il y a ce côté mystique là dont tu parles. On peut l'appeler comme on veut, tu vois. On peut être vraiment très terre à terre et appeler ça autrement. Mais en tout cas, il se passe quelque chose qui nous dépasse. Quand les textes sont bons, on le sent quand on le lit. Quand on lit un bon texte, on le sent. Oui. On le sent tout de suite. Ou alors, on ne le sent pas et c'est pareil. Tu vois, on a compris.
Oui, c'est ça, c'est tout l'un ou tout l'autre, en fait. C'est pas non plus d'entre deux, de oui, peut-être. C'est fulgurant dans un sens ou dans un autre.
Ouais, alors des fois, tu sais, il y a des textes qui sont pas mal. Pas mal.
Ouais.
Et ça veut dire que par endroit, hop, il y a un petit. Hop, ça arrive par endroit. Et ensuite, oh, on sent la personne, elle a essayé de contrôler, d'arranger. Et hop, ça rebaisse. Et hop, de nouveau, c'est dangereux, les textes pas mal. Hein. C'est les plus dangereux, je trouve. Parce que ça nous rabaisse. Moi, je tempérerai quand même mon discours, là, parce que je suis pas 100% d'accord avec moi-même. Je trouve ça très bien que tous les textes existent.
Oui, oui, parce que ce qui est génial pour l'un peut être horrible pour l'autre. Et il y a
voilà, cette possibilité. Tout existe dans le présent, là, tout existe. Plein de littérature, plein de poésies différentes, plein de familles de poésie. Et il y a de la poésie qui fera du bien à certaines personnes et qui en fera aucun à quelqu'un d'autre. Et je trouve ça très bien que ça existe. Tu vois, je me sens contre rien. Oui. Je ne vais pas dire alors ça, surtout pas, il ne faut pas le faire. Non, c'est très bien que ça existe.
Et l'écriture de ton roman, en fait, par rapport à tout ce que tu disais, ça t'a pris longtemps à travailler, retravailler, ou ça a été quelque chose d'assez spontané, avec... Comment tu as vécu cette écriture d'un point de vue un peu technique, là, pour le coup ?
Oui, ça m'a pris longtemps. J'ai travaillé à peu près 4 ans sur ce livre. D'accord. La première année, enfin, les premiers mois, ça a été vraiment des mois... où il a vraiment fallu tout remettre en question et tout détruire en moi, tout détruire en moi pour que ce soit possible. Donc ça a été vraiment très très ça a été vraiment très difficile les premiers mois, un peu même horrible dans ma vie à ce moment-là. Enfin vraiment, ça n'avait plus aucun sens, c'était pas possible, c'était complètement inaccessible, c'était grave et c'était moi, parce que je me voyais dans l'écriture, je me voyais dans les textes, c'était moi. Et ensuite, j'ai compris profondément, parce qu'on peut le comprendre intellectuellement, mais j'ai compris par la pratique directement que c'était surtout pas moi, que ça avait presque peu à voir avec moi. Et à partir de là, ça s'est ouvert. Et là, les personnages, les voix plutôt, ont fait leur apparition dans le texte et c'est venu. Donc, il y a eu une première version très, très longue. Mm-hmm. Il faisait à peu près le double du livre actuel. Puis, oui, parce que tu vois, ça venait vraiment beaucoup, toutes ces voix. Donc, ensuite, j'ai beaucoup enlevé, j'ai réorganisé. Et après, ça a été un travail de relecture qui a duré... Peut-être que ça a duré 2 ans, tu vois, le travail de relecture et de réécriture. Donc, je l'ai refait sans arrêt, comme ça, de manière cyclique. Je me disais, mais est-ce que ça s'arrêtera un jour ? Peut-être, peut-être pas. Mais comme de toute façon, je ne décide pas, et comme de toute façon, ce n'est pas moi, mais c'est autre chose, eh ben, je me mets au service. Donc voilà, j'ai travaillé de manière relativement tranquille pour quelqu'un qui ne l'était vraiment pas du tout au départ. Et j'étais au service, voilà, au service, chaque jour au service. Au service complet, pendant plusieurs heures au service, et c'est tout. Rien de plus. Et en dehors, j'essayais d'oublier.
Ah, c'est marrant. Donc, tu travaillais sur d'autres choses en même temps, ou au contraire, tu faisais, comme tu disais tout à l'heure, de la maçonnerie pour juste t'éloigner du roman ?
Alors, de temps en temps, j'écrivais des textes pour des revues, comme on m'en demande de temps en temps. Tu vois, ça me faisait l'après-midi, j'écrivais des poèmes pour les revues. Et puis, je prenais... Alors, en fin de journée, généralement vers 18h, j'ai une mini-pulsion d'écrire des phrases de poésie. Et donc, pendant cette période-là, j'écrivais pas trop de poésie. Mais j'en écrivais donc vers 17-18 heures dans mon téléphone, tu vois, j'en écrivais un petit peu. Quelques phrases, quelques idées, souvent déclenchées par des lectures, parce que l'après-midi, je lis, le matin, j'écris, l'après-midi, je lis. Donc, souvent déclenchées par des lectures, j'avais un petit peu besoin, tu vois, d'écrire des trucs. Ouais. Et je me suis retrouvée avec, finalement, un manuscrit très, très conséquent de poèmes. Et là, je travaille là-dessus.
D'accord. Donc, tu as enchaîné directement.
Oui, à partir de ces notes. Tu vois, je me suis rendu compte que ces notes, c'était un livre qui était en train de prendre vraiment très fort et que c'était une épopée. Et je te parlais tout à l'heure du mouvement des animaux. Alors, c'est complètement ça, ce livre-là, cette longue épopée. Mais c'est un très, très long livre. Et ce sont des poèmes en vers libre, en gros.
D'accord.
Donc ça, je l'ai écrit en parallèle du roman, mais sans m'en rendre compte, comme ça. Vraiment sans m'en rendre compte, c'est bizarre d'ailleurs, mais je me suis retrouvée avec beaucoup de notes, bon, que je ne peux pas prendre telles quelles, mais c'est la base.
Oui, c'est ça, tu as une base pour un nouveau livre, qui sera donc un livre, parce que c'était une question que je voulais te poser, quels sont tes projets à venir ? Ben voilà, tu as répondu, une épopée.
Ouais, une épopée, et c'est vraiment un livre de poésie.
D'accord.
Formellement, ça se voit, on l'ouvre, et c'est de la poésie.
C'est pas, ouais, voilà, c'est, il y a la maquette qui va avec.
Ouais, la mise en page, tout ça.
Eh ben, j'ai hâte de le découvrir maintenant que j'ai découvert La Semaine Perpétuelle, qui est donc aux éditions du Sous-Sol. Donc, je te remercie pour cet échange autour principalement de l'écriture, Laura. Et
d'accord.
Je te dis à bientôt.
À bientôt.
Il a donc été question de La Semaine Perpétuelle par Laura Vasquez aux éditions du Sous-Sol. Et n'oubliez pas de lire...